Voilà. Alors, ce grand moment est arrivé. Heureusement, vous n'entendez pas mon cœur. Et j'ai vraiment la joie, le plaisir, l'honneur de pouvoir dire un bout de mon parcours, de vous le partager en tant que famille. Donc, c'est un honneur pour moi de le faire. Et quand on m'a demandé de le faire, c'est parce que je vous aime que j'ai accepté, parce que ça me fait plaisir de partager ce que Jésus a fait dans ma vie. Alors, ce n'était pas du tout acquis, parce que je ne suis pas née entre deux pages de Bible, comme j'ai entendu ce terme par ici. Donc, j'avais tout à apprendre, ou tout à désapprendre et réapprendre. Donc, je suis née au siècle dernier, dans un petit village des Franches-Montagnes, perdu là, Seignelégier. Et puis, c'était un village, il y avait une église catholique, une église protestante. 98% des personnes étaient catholiques. Et puis, il y avait deux familles protestantes, dont notre famille. En fait, mon père était protestant et ma mère catholique. Et en plus, mon père était suisse-allemand, ce qui n'arrangeait rien du tout. Dans un canton jurassien, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, eh ben, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait deux boulangeries, une boulangerie pour les catholiques, une boulangerie pour les protestants. Bon, quand même, quelques catholiques y allaient, sinon ils auraient fait faillite, bien sûr. Alors voilà, j'ai connu les guerres de religion à l'intérieur de notre famille, parce que ma mère, ayant marié un protestant, a été excommuniée et elle était de Seignelégier. Donc ses frères et sœurs lui disaient « Bonjour madame » dans la rue. Et on a vécu des choses assez difficiles, même à l'école, où les enfants jouaient entre eux et ben, les protestants, ils étaient dans un coin. Voilà, on ne s'occupait pas d'eux ou pour leur jeter des cailloux. Enfin, certains d'entre vous ont connu ça par ici aussi. J'ai entendu de la bouche d'Étienne. Donc, voilà, c'était comme ça. Donc, j'ai grandi. Mon premier traumatisme a été à l'âge de 4 ans. En fait, j'avais menti. Et puis, mon père voulait que je dise la vérité et il a pris une très grosse voix et j'ai eu très peur. Alors je m'obstinais à dire que c'était pas moi, mais il n'y avait personne d'autre que ma sœur qui avait 6 mois, 8 mois et moi. Donc c'était bien évident que c'était moi et que je mentais. Mais ça a duré très très longtemps. J'ai tenu bon comme la chèvre de Monsieur Seguin presque. Et je ne pouvais pas dire que c'était moi parce que j'avais très peur et il avait une grosse voix. Les parents, des fois, ne se rendent pas compte avec quelle voix ils parlent à leurs enfants. J'étais terrorisée et finalement, il m'a dit « Écoute, il te faut dire la vérité vraiment et je ne te ferai rien. » Et après, sur cette parole, j'ai bien sûr dit que c'était moi qui avais mis du sucre sur le gâteau aux oignons de ma sœur. J'avais vu faire ma mère et j'ai voulu faire pareil. Voilà seulement que mon père s'est fâché vraiment très très fort. Et j'ai été battue avec des verges de branches de rosier, eh ben, toutes nues. Et ça m'a traumatisée pour beaucoup, beaucoup d'années. Ça m'a traumatisée dans le sens que le père ment lui-même. Ensuite, les hommes, on ne peut pas les croire. Et jusqu'à Dieu. Dieu le Père, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à pouvoir m'approcher de Dieu le Père. C'était inconscient, c'était durant la marche. C'est juste pour vous expliquer les bases des choses qui peuvent nous influencer au long de notre vie. Ensuite, ben, ma foi, on grandit plus ou moins, et puis on se débrouille pour passer inaperçu. C'est pour ça que je me suis réfugiée dans les livres. Je vous l'ai déjà dit une fois, j'ai eu la passion des livres, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Et c'était les seuls moments de joie que j'avais. En fait, je n'ai jamais souri, je n'ai jamais ri en tant qu'enfant. Je n'ai jamais joué non plus. Et finalement, j'observais beaucoup. On était obligés d'aller à l'école du dimanche. Et j'ai tôt fait de juger l'Église catholique et l'Église protestante. Et je voyais beaucoup de richesses dans l'Église catholique. Et je me disais, avec toute cette pauvreté qu'il y a partout dans le monde, pourquoi autant de richesses ? Ça me révoltait. Ensuite, je voyais l'Église protestante et je voyais les gens qui écoutaient des beaux sermons, des choses magnifiques. Ils sortaient de l'Église et ils critiquaient tout le reste du village. Ils disaient, voilà, la fille du pharmacien, elle a encore fait ci, etc. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je voyais des deux côtés les défauts. Bien sûr que mon regard était plutôt dirigé vers les choses négatives, déjà. Donc, j'ai eu tôt conscience aussi d'un monde parallèle, d'un monde de contes de fées. Et comme dans le Jura, on a un truc qui s'appelle le secret. Ce sont des secrets, justement, pour guérir les malades ou pour faire du mal aussi. Le père de ma mère, mon grand-père, il avait le secret pour faire mourir du bétail à distance. C'est facile, ça. Et puis, en fait, tout ça, ça m'attirait. Je ne savais pas pourquoi, mais je lisais des livres, je voyais qu'il y avait des sorcières. Alors, il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Alors, je me suis dit, bon, la magie noire, quand même, on veut peut-être éviter. Parce que j'avais vu des livres où il fallait prendre de la poudre de crapaud. Je me voyais assez mal trouver un crapaud et de le réduire en poudre pour faire ces petites potions. Donc, magie blanche, voilà, ça c'est pour faire du bien, pour soulager les maux de tête, enlever les verrues, arrêter le sang, arrêter le feu. Enfin, vous connaissez certainement tout ça. Et puis là, j'aurais donné n'importe quoi, mais n'importe quoi pour obtenir ça. J'avais vraiment aussi un peu envie quand même d'aider les gens et je voyais tellement de choses difficiles autour de moi que j'avais cette envie dans mon cœur. J'ai quand même continué de grandir et j'ai fait quelques études à Delémont parce que j'y ai été obligée. Et là, j'ai fait ma première tentative de suicide parce que la vie à 17 ans, elle était trop dure pour moi. Je voyais trop d'injustices et je me disais que le bonheur sur Terre n'existait pas. Donc, j'ai décidé de sortir par la porte de derrière. Le monde allait tourner sans moi. Qu'est-ce que ça pouvait bien changer ? Eh bien, voilà, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai vécu avec des dépressions qui sont venues par la suite. Alors, j'ai cherché toujours plus dans des choses parallèles, donc des diseurs de bonne aventure, des voyants. Je voulais bien faire tourner des tables, parler avec des morts, je voulais faire toutes ces choses qui sont interdites à quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, mais j'en savais rien du tout. Et je voulais explorer, je voulais comprendre le monde, je voulais comprendre qu'est-ce que je faisais sur Terre, où j'allais, et qu'est-ce que je faisais ici, et pourquoi ? Toutes ces questions ne me laissaient pas tranquille. Alors, pendant ces quelques années où je cherchais, j'ai fait du yoga, je suis partie en Amérique à 20 ans, j'ai senti beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, et je me disais, mais c'est pas possible, il faut comprendre la vérité, il y a quelque chose à comprendre de cet univers. Surtout quand je regardais les étoiles, je me disais, mais il y a quand même une force qui les tient bien à leur place, parce que si elles commençaient à nous tomber sur la tête, on n'irait pas loin. Donc, j'étais très... Trop à réfléchir. Donc, j'allais de plus en plus mal, mais j'avais réalisé qu'en fait, ça ne servait à rien de me suicider une deuxième fois parce qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas tuer en moi. Je voulais mourir pour plus penser, mais j'ai réalisé tout à coup que j'étais piégée parce que même si je mourais, il y a quelque chose qui allait continuer de penser, qui allait continuer de vivre en moi. Je me suis dit, mince, alors là, autant finir ce que j'ai commencé, la vie, voilà, on continue. Et j'ai eu finalement un travail qui a été magnifique. Je vivais en Afrique, en Asie, dans les plus belles régions du monde. J'ai vécu au Kenya, aux Maldives, presque une année, 2 ans en Thaïlande. Côte d'Ivoire, chaque fois j'étais là pour 6 mois, une année ou 2 ans, et j'allais de beauté en beauté, la terre est magnifique, et j'étais dans les meilleurs hôtels aussi, mais à l'intérieur de moi j'avais un vide qui était terrible, et souvent quand ces dépressions me prenaient, j'arrivais dans des hôtels luxueux, 4-5 étoiles, et ma première pensée, c'était de regarder par la fenêtre que si je sautais, est-ce que j'allais vraiment mourir ? Donc, c'était infernal. Donc, un jour, quand même, Dieu a eu pitié de moi, et il a eu déjà pitié bien avant de moi, mais j'étais bien fermée à sa voix. Un jour, je trouve chez ma maman un pasteur. Et ce pasteur, il était plus jeune que moi, et il avait l'air bien, il avait l'air d'être heureux. Et moi, je ne l'étais pas, je voulais bien ce qu'il avait, mais voilà. Alors, il me dit, aie Jésus dans ta vie. Alors, c'était Dominique Fontaine, Jude 25, qui va venir bientôt ici, j'ai vu. Donc, lui était chez moi, à la Chaux-de-Fonds, chez ma mère, et il priait avec elle. Et il me dit, aie Jésus dans ta vie. Je me dis, mais quel malhonnête celui-ci, mais qu'est-ce qui s'occupe de ses affaires, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Je lui ai dit, mais moi j'ai Bouddha et ça va très bien. Parce que j'habitais en Thaïlande et puis je ne voulais quand même pas lui dire que j'allais mal. Donc l'orgueil était à son plus haut niveau. Alors. Et je suis repartie pour la Thaïlande parce que moi je faisais le contraire. Je travaillais là-bas, je venais en vacances en Suisse de 3 semaines. Et puis voilà qu'en Thaïlande, de nouveau, c'est dépression et tout ça. Et tout mon monde s'écroule parce que je suis appelée à revenir en Suisse. Et par des divers trucs qui sont arrivés, je me suis retrouvée à l'hôpital. Voilà. Alors, à l'hôpital, ma mère me dit, écoute, il y a ce pasteur qui aimerait venir te voir. J'ai dit, alors surtout pas. Eh bien, elle me dit, mais pour me faire plaisir. Je dis, bon, voyez comment c'est les mamans, hein, on veut bien leur faire plaisir. Alors, j'ai dit, oui, mais il ne faut pas qu'il reste longtemps. D'accord, ok. Alors, il est arrivé. Et puis, ce qui m'énervait le plus en lui, c'est qu'il avait l'air d'être heureux. Et puis, moi, ben non, et j'avais cherché, etc. Alors, j'avais un livre sur ma table de chevet qui disait « Les maîtres du monde ». Alors là, ça parlait de... On pouvait voyager, sortir de son corps, ses voyages astraux et tout ça. Alors, je me disais, ah, voilà, je vais lui expliquer ça. Parce qu'au XXe siècle, on ne peut quand même plus croire en Jésus. Il faut qu'il se rende à l'évidence quand même qu'il a tort. Donc, il a été assez intelligent pour m'écouter. Et puis après, il me disait, bon... Mais pourquoi tu pourrais essayer Jésus ? J'ai dit non, Jésus, c'est tellement vieux, et puis c'est presque une fable, enfin, une histoire à ouin-ouin, enfin, c'est ce que je pensais vraiment, je ne pensais pas qu'il ait existé, on ne peut pas croire en Jésus au XXe siècle quand même. Et puis il me disait, oui, mais tu pourrais par exemple lire la Bible ? J'ai dit, oh, mais la Bible, tu vois, c'est vieux, c'est poussiéreux, etc. Et puis il me fait, mais... Peut-être que tu cherches dans la mauvaise direction. J'ai dit, ah, toutes les routes mènent à Rome. Donc, finalement, il s'est dit, mieux pas discuter avec ce genre de personnes. Il m'a dit, est-ce que je peux prier? J'ai dit, ah ben oui, parce que je me suis dit, comme ça, ça sonne le départ aussi. Alors il a prié, il a dit, Seigneur, parce qu'il m'avait demandé, mais pourquoi tu lis tous ces livres? J'ai dit, mais je cherche la vérité, je vais la trouver, parce que c'était comme une longue route droite, et puis au bout il y avait un virage, puis quand j'arriverai dans le virage, eh ben, je comprendrai, mais quand j'arrivais dans le virage, il y avait un autre bout droit, et un autre virage, et ainsi de suite, à en perdre la santé mentale. C'était diabolique, vraiment. Alors il prie, il dit, Seigneur, tu vois qu'elle cherche la vérité, dans ta parole tu dis que tu es le chemin, la vérité, la vie, fais un pas dans sa direction. Amen, amen, ah ben, voilà, c'est pas ça qui va changer grand-chose, hein. Au revoir, il est parti. Après, j'ai pu sortir de l'hôpital, et puis je suis rentrée chez moi, et à ce moment-là, je n'avais qu'une idée, c'était de faire un peu la fête avec ma sœur, mon frère, des amis, parce que peu de temps après, je devais repartir en Tunisie. Mais tout à coup, alors que tout était prêt pour faire une fête, j'ai eu très mal où j'avais été opérée, et je suis allée me coucher, j'ai dit « faites la fête sans moi ». C'était 6 heures le soir, je ne dormais pas, il faisait encore jour dehors. Et là, dans la nuit, les rideaux étaient tirés, il faisait jour dehors, mais je m'en souviens très très bien. Tout à coup, je me suis vue comme Dieu me voyait, et tout à coup j'ai vu des grandes lettres. La moitié des lettres étaient en peinture dorée, et l'autre moitié des lettres en peinture argentée. C'était écrit en majuscule, et c'était écrit « Jésus, c'est vrai ». Et ça m'a atteint en plein cœur. Ça m'a atteint en plein cœur où j'ai compris que c'était vrai. Jésus, ce n'était pas une histoire. Jésus avait donné sa vie. Il était réel. Et en même temps, je me suis vue comme Dieu me voyait. Et ça, c'était terrible. Ça, c'était vraiment terrible. Je voyais que j'avais transgressé tous les commandements. Il n'y a pas quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai tout fait faux. Je voyais, j'avais triché, volé, menti, tout. Toute la colonie, vous pouvez les prendre. J'ai cherché dans les francs-maçons, dans les Rose-Croix. J'ai étudié les courants telluriques, le magnétisme, les cathédrales, en veux-tu, en voilà. J'ai passé au fil de mes livres. Toutes ces choses, je cherchais, je voulais comprendre. Et en même temps que je me voyais comme Dieu me voyait, je voyais Jésus. Jésus qui me tendait quelque chose, il était là, comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a là, dans la main? Et puis, en même temps, je comprenais, mais tout allait très vite dans ma tête. En même temps, je comprenais que ce qu'il avait dans la main, si je ne le prenais pas, ça ne pouvait pas être à moi. Et s'il voulait me le donner, il fallait que je le prenne. Et puis, j'ai vu, j'ai compris que c'est ce qu'il avait fait à la croix pour moi. Il avait tout payé à la croix pour moi. Mais il fallait que je l'accepte, il fallait que je le prenne pour moi. Alors, je l'ai pris, je l'ai accepté. Et puis, c'était comme un paquet. Dans ce paquet, il y avait même la vie éternelle. Il y avait aussi le pardon de ce que j'avais fait, de ce que je faisais et de ce que je ferai jusqu'à ma mort. Tout était payé, c'était bon. Et ça, c'était le cadeau. Oh, j'étais tellement ébahie, je ne pouvais pas croire que son sang avait coulé, qu'il avait tout effacé. Et je comprenais ça à ce moment-là. Et au moment où je le comprenais, j'ai demandé pardon et il y a cette parole qui est venue, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Tout à coup, il y a la joie qui est venue et j'ai vu comme le ciel ouvert, puis des anges qui se penchaient au balcon, il y avait de la joie. Et cette joie, elle m'a été communiquée. Ah ben c'était magnifique, ben voilà, je me suis endormie dans une paix céleste, divine. Puis quand je me suis réveillée le lendemain matin, je me suis dit, ben, il faut aller dire ça au pasteur. Mais je n'avais pas envie du tout. Je me suis dit, non, il va être trop content. Vous voyez combien je suis tordue. Hein. Alors, j'ai résisté 3 jours quand même. Le 3e jour, j'y suis allée. Alors j'ai sonné, dring, dring. Il est venu ouvrir. Puis je lui ai dit. Et puis il dit, oh, alléluia, mais c'est magnifique, gloire à Dieu et tout. Il était tout content. Et puis, alors il m'a dit, ben, maintenant, il faudra que tu approfondisses ce que tu as vécu et que tu t'installes à la Chaux-de-Fonds. J'ai dit, mais il rêve, moi, mon travail continue. Je pars en Tunisie dans moins de 2 semaines. Il faut bien continuer son travail. Alors finalement, il a quand même bien vu que j'allais partir. Il m'a donné une Bible et je suis partie chez les musulmans. Alors j'avais toujours beaucoup de préjugés parce que j'étais pleine de préjugés, de jugements, de choses comme ça. Alors Dieu, il a eu beaucoup de travail avec moi parce qu'il fallait me désapprendre et puis me prendre. J'étais réduite en bouillie, hein, quand même, il faut que je vous dise. Il les a toutes passées, enfin j'espère, on ne sait jamais là. Une fois, j'avais dit au Seigneur, dans ma marche chrétienne, j'avais dit au Seigneur, « Seigneur, voilà, je n'ai plus d'illusions. » Et puis j'avais une conversation très sérieuse avec lui, j'ai dit, « J'ai tout abandonné, je n'ai plus d'illusions. » Alors il m'a fait un grand clin d'œil, puis il m'a dit, « C'est une illusion. » Alors. Je sais qu'il y en a encore. Voilà, alors ça, c'était un épisode de ma vie. Alors, bien sûr que pour une personne normale, peut-être que ça suffit, mais pour moi, ça ne suffisait pas. Donc, il a fallu quand même un deuxième bain très, très fort pour me débarrasser de beaucoup de choses. Donc, au travers de toutes ces années, j'avais accumulé beaucoup de livres, des livres occultes. Et dans ces livres, il y a une puissance. Ces livres sont... Ils nous appellent. Il y a quelque chose de très fort dans les livres. Il ne faut pas minimiser. Et si vous avez des livres qui traitent de ces sujets-là, je vous conseille de vous en débarrasser. Donc, ce n'est pas des choses à garder. Mais entre deux, j'ai encore réussi à faire une petite bêtise qui s'est révélée quand même assez grande. C'est que juste après que j'ai reçu cette magnifique révélation et que Dieu m'est tellement bénie et que j'aime tellement Jésus, mon premier amoureux, mon premier chagrin d'amour aussi, s'est manifesté. Des extrémités de la terre... Dieu est allé, enfin, il s'est manifesté. Pour moi, un faisait toujours deux encore à l'époque. On change avec le temps. Donc, j'ai pensé, ben voilà, Dieu m'envoie cet homme. Je l'avais tellement aimé, ce premier amour. Et puis, finalement, on s'est mariés. Je vous évite les détails parce que je ne sais même plus combien de temps il me reste. Bon, je vous dirai les grandes lignes. Pour les petites lignes, on se reverra peut-être une autre fois. Mais voilà. Alors, je me suis mariée. Et puis, ma joie, mon bonheur de mariage a duré exactement 11 jours. Le 12e jour, il m'a dit, ben, tu vas voir maintenant qui je suis vraiment. Et cet homme qui était doux, qui était intelligent, qui était joyeux, qui était... Voilà. Il a changé comme ça, du tout au tout, je ne comprenais plus rien. C'était un drame pour moi. Et c'est vrai que je n'avais même pas demandé à Dieu si c'était le bon. Alors j'ai commencé d'être comme une feuille d'automne qui tombe toujours plus bas. Avec le vent, elle remonte un peu, on y croit de nouveau, et toujours plus bas, on retombe. Jusqu'à ce qu'on soit dans la boue, ou jusqu'à ce que j'ai été dans la boue. Et là, dans la boue, je me suis souvenue que Dieu était vivant. Et j'ai demandé pardon d'avoir pris des décisions si importantes sans le consulter. Et je lui ai demandé du secours, parce qu'il est écrit qu'il va nous secourir quand on le demande. Et ça, c'est vrai. Tout ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. D'ailleurs, j'ai oublié de vous lire le verset que je voulais lire en premier avant de partir dans mon histoire. C'est que de la poussière, il redresse le faible, du fumier, il relève le pauvre, pour les faire siéger avec les grands de son peuple. Les grands de son peuple, c'est vous. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à partager mon histoire avec vous. Parce que Dieu m'a relevée à travers tout ce que ces choses difficiles que j'ai vécues. Dieu m'a sortie de tout ça, de ce fumier. Et il m'a nettoyée. Il m'a porté secours. Et il a utilisé des choses incroyables. Après que j'ai prié pour du secours, 3 jours après, le secours est arrivé sous la forme d'un chat. Alors, toutes les formes sont bonnes. Ce chat que j'aimais beaucoup était complètement plat. Il est revenu un matin malade, complètement plat, justement ce 3e jour. Je suis allée chez le vétérinaire qui m'a demandé de le tenir pendant qu'il l'auscultait. Le chat a sauté de la table, il m'a mordu à travers le doigt et il est mort. Voilà. Et moi, ben, je pleurais, bien sûr. Je suis rentrée chez moi et même pas une demi-heure après, il y avait 2 infirmiers derrière la porte. Alors, il faut venir tout de suite, traitement contre la rage. Parce qu'on était en Tunisie au siècle dernier, c'était pas comme aujourd'hui. Et il n'y avait pas d'institut Pasteur dans la région où j'étais. Il fallait 3 heures, 4 heures de voiture pour aller jusqu'à Tunis. Et c'était un samedi. Et on n'était pas sûr d'avoir les résultats justes. Donc, ils ont commencé un traitement contre la rage immédiatement. Alors, en Tunisie, ce n'est pas très gai, un traitement contre la rage. Après les premières piqûres, je ne pouvais déjà plus marcher, ne plus bouger. Et je devais en avoir 15 tous les jours, une, pendant 15 jours. Donc finalement, j'ai été rapatriée en Suisse. Et c'était le secours de Dieu. C'était ce chat. Parce qu'en Suisse, le pasteur est venu me revoir. Et je m'étais dite, que j'avais un compte à régler avec Dieu. Et je voyais, chaque fois que je pensais à Dieu, je voyais comme s'il tournait sa face, comme s'il ne me regardait pas. Et je savais que j'avais un compte à régler avec lui. Mais c'était avec lui qu'il fallait que je règle un compte. Alors, on a essayé de me faire voir des psychiatres, on a essayé de me faire passer par la filière normale. Mais je leur disais, non, moi j'ai un compte à régler avec Dieu. Alors, c'était pire quand on dit ça. Alors, finalement, j'ai fait 6 semaines d'hôpital en Suisse à cause de la rage avec d'autres traitements. Et puis, je suis rentrée chez moi et il fallait que je sois seule. Et dans cette solitude, j'ai vu tous mes livres et j'ai entendu le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et j'ai dit, ben voilà, c'est plus compatible. Donc, j'ai commencé de prendre ces livres, de les descendre. Il y en avait passé 350, donc il y en avait beaucoup. Et je les regardais, je les mettais par terre, j'en prenais. Oh, puis je me disais, ah non, celui-là, non, on va le remettre. Et puis, j'ai fait ça pendant un bon moment, parce que j'avais mal au cœur, vraiment. Et puis, tout à coup, j'ai eu tellement mal dans le cœur que j'ai dû aller m'asseoir. Et puis, je fumais à l'époque, j'ai fumé pendant 13 ans. Et puis là, il y avait une voix qui me disait, si je prends une seule cigarette, j'aurai plus mal dans le cœur. Et je voyais une cigarette qui faisait comme ça, devant mes yeux, et je savais que je pouvais me lever là, dans ce tiroir-là, à 2 mètres, il y avait des cigarettes. Puis je me disais, non, je me tenais au fauteuil, je me disais, non, il ne faut pas céder. Et je n'ai pas cédé, et j'avais encore plus mal dans le cœur, et ça me tordait le cœur. La cigarette est partie et puis c'était un verre de whisky qui venait. Si tu bois une goutte, une gorgée de whisky pur, ça va partir. Je me disais, ouais, peut-être c'est une bonne idée. Et puis, non, il faut tenir. Non, c'est mon compte à régler avec Dieu. Il ne faut pas céder. Et le verre est parti. Et tout à coup, j'ai téléphoné chez le pasteur. Et c'est sa femme qui est venue au téléphone et elle a tout de suite compris ce qui se passait. Alors, elle a sauté sur son vélo moteur avec la Bible sous le bras, puis elle est venue vers moi. Et puis, elle a commencé de prier. Mais plus elle priait, plus j'avais mal. Alors, j'avais envie de lui dire d'arrêter parce que... Mais non, il ne fallait pas qu'elle arrête. Et puis, le téléphone s'est mis à sonner. Et puis, il faudrait prendre le téléphone. Mais non, il ne faut pas le prendre. Il faut qu'elle finisse sa prière. C'était un combat vraiment terrible qui a duré un bon moment. Et tout à coup, avec le dernier mot de sa prière et la dernière sonnerie du téléphone, j'ai vu une ombre qui est sortie de moi, qui a sauté par la fenêtre. Et j'ai été délivrée de toute dépression jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Dieu est bon. Dieu est bon. Je pourrais vous raconter encore beaucoup d'histoires de toute la bonté de Dieu et comment il m'a enseigné, comment il a réparé mon jardin, comment il m'a aidé à enlever toutes ces mauvaises herbes. Donc, j'aimerais vous encourager dans les situations où vous êtes. Ayez confiance en Dieu. Dieu est là. Dieu ne vous abandonne pas. Dieu vit à l'intérieur de vous. Jésus, il vous aime tellement. Il veut le meilleur pour vous. Vous pouvez vraiment tout lui confier. Et il veut élargir l'espace de votre tente. Enfin, pas de la tente, mais du cœur. Pour qu'il y ait plus de place pour lui. Plus de place. J'étais tellement incrédule, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc si Dieu m'a trouvé, il peut trouver tous les gens de la terre. Vraiment. Alléluia. J'aimerais prier. Seigneur, je te remercie pour tant d'amour, tant de grâce. Tu as donné Jésus. Tu as tout donné. On a tout en Jésus. Et il tend la main à chacun, à chaque instant. On peut prendre sa main. On peut prendre sa main pour des guérisons. On peut prendre sa main pour de la consolation. On peut prendre sa main pour sortir de nos prisons. On peut prendre sa main pour marcher plus loin avec lui. Plus loin sur le chemin. Ça vaut la peine, même s'il y a des moments difficiles. Et je te demande de visiter chacune de ces chères personnes. Je te demande vraiment de t'approcher de chacune d'elles et de les serrer contre toi, de leur manifester ton amour de papa. Merci que dans leur moment, avant de s'endormir peut-être ce soir, ils peuvent prendre ta main pour être juste un peu plus près de toi encore. Amen.